philosophy première par la Permerie Dominique Philippe, le 7 mars 2002 à Saint-Judas.
Je lis tout de suite les quelques sessions. Si mon corps conditionnement conditionnement substantiel de la personne humaine me limite, maladie, handicap, tant que ma vie cherche la finalité dans l'ordre de la vérité, au-delà de ma capacité d'aimer, diminue, ai-je le droit de me supprimer? Bon, autrement dit, en deux mots, est-ce que le conditionnement peut prendre la finalité? Le conditionnement peut aller très loin, parce que la vieille carcasse, elle peut empêcher la manifestation, l'exercice. La manifestation, c'est parler, c'est les gestes. L'exercice, c'est la pensée. On peut arriver à faire cet handicap. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, j'ai le droit de supprimer mon corps? Je crois que c'est vraiment ça comme question. Le conditionnement ne me donne jamais des droits sur ma finalité. Ai-je un droit sur ma vie? D'où avez-vous reçu votre vie? Elle vous a été donnée gratuitement. Donc, vous ne pouvez pas la supprimer. Elle vous a été donnée gratuitement. Dès que vous comprenez que votre vie ne vient pas de vous, que c'est un don, alors vous pouvez très bien, et c'est là la grande objection, puisque justement elle m'a été donnée gratuitement, moi je ne l'accepte pas. Vous voyez, dans le suicide, c'est que le devenir l'emporte sur l'être. Fondamentalement, c'est ça. Le devenir est devenu insupportable, impossible à vivre, terrible à vivre. Alors, est-ce qu'il ne me donne pas le droit d'arrêter? Donc, la tentation, c'est de faire du devenir une réalité absolue. Je considère que ce devenir me donne le droit, parce qu'il est insupportable, me donne le droit de supprimer. Mais mon devenir ne remplace jamais mon être. Au fond, dans le suicide, c'est le devenir qui est devenu tellement important qu'il étouffe mon être. Alors je l'arrête. J'ai un droit sur le devenir, parce que je peux orienter ma vie. Je peux devenir un clown. Je peux, dès le point de départ, orienter toute ma vie vers ça. Je peux aussi devenir un sage. J'oriente toute ma vie vers ça. C'est vrai, on a orienté sa vie. En choisissant la vie religieuse, on a orienté sa vie. On a fait un tournant magnifique dans le devenir. Il est très beau quand on l'a fait, et il y a le lendemain. Regardez dans quelle boutique je me suis embarqué. Et c'est vrai, parce que le devenir est le présent. Alors, d'une façon héroïque, on a dit, ce qui est important, c'est de sauver son âme. Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver. Et donc, peu importe le devenir, il sera dur. Peu importe. Mais attention, le lendemain, vous ne voyez plus votre âme parce qu'elle est invisible. Vous ne la sentez plus. Vous vous sentez froid aux pieds. Et votre devenir, petit à petit, à tout prix, il a gelé vos pieds. Puis ça a gagné, et votre cœur s'est gelé. Vous avez dit, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est quotidien, ça. La lutte entre l'être et le devenir. Quand on le vit vraiment, comme Dieu nous demande de le vivre. Vous voyez, le devenir ne vous donne jamais un droit sur votre âme, sur votre être. Alors, ça peut très bien faire que ça vous excuse complètement, parce que ce devenir peut devenir quelque chose de tellement puissant qu'il étouffe. C'est pour ça qu'il n'est jamais à condamner. C'est pour ça que l'Église, à un certain moment, ne voulait pas enterrer ceux qui se suicidaient, et aujourd'hui, par miséricorde, elle le fait. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'a subi quelqu'un qui s'est suicidé. Il y en avait ras-le-bol, hein. Pouvait plus. Alors vous voyez, distinguons bien les principes philosophiques. Jamais le conditionnement ne peut étouffer la finalité. Mais ce conditionnement peut devenir terriblement fort que momentanément il étouffe complètement la finalité. En éthique chrétienne, où vous nous avez parlé l'année dernière du martyr, qu'appelle l'obéissance, puis-je exposer mon corps au risque de la mort pour aimer plus mon ami? Le martyr, c'est à l'égard de Dieu, c'est à l'égard de l'adoration. On ne veut pas trahir l'alliance avec Dieu, c'est ça. On accepte d'être dans des mains étrangères, des ennemis qui font de moi ce qu'ils veulent. Pendant la dernière guerre, tous les parachutistes avaient la pilule qui faisait que s'ils étaient pris et si on voulait les torturer, on leur donnait cette pilule qui fait qu'il serait en 3 minutes mort. Et je me souviens, ce brave soldat qui m'a donné sa pilule en me disant, c'est trop tentant et je veux être fidèle, je ne veux pas tuer. Mais c'est tellement tentant d'avoir ça dans les mains. Si jamais on tombe en pays ennemi. Oui, c'était très beau. Mais il sentait sa faiblesse. Et en même temps, il voulait être fidèle. Je crois que ça, c'est le propre de la tentation. Au fond, toute tentation, c'est céder au conditionnement par rapport à l'être. C'est ça, la tentation. Vu métaphysiquement, le conditionnement est devenu tellement terrible, tellement épouvantable, qu'on veut l'arrêter. On ne veut plus, on ne veut plus. Jusque-là, on l'a subi. Et être victorieux d'une tentation, c'est de maintenir notre finalité, donc notre être. Parce que la finalité touche l'être. Hein. Maintenir notre être en face d'un conditionnement impossible. Vous avez parlé de la tanie au niveau biologique, héritage du corps. Peut-on parler de l'exemple et des habitudes acquises comme un atavisme? Ah, oui, je vois la question. L'atavisme, c'est le lien avec les ancêtres, avec les parents, avec les grands-parents. Peut-on parler de l'exemple et des habitudes acquises comme un atavisme? C'est pas la même chose, mais c'est quelque chose de commun, je vois, c'est quelque chose de commun à l'égard du conditionnement. L'atavisme est au niveau du conditionnement, ça c'est sûr. C'est pas au niveau de l'âme substantielle. L'âme substantielle créée par Dieu, nous n'avons qu'un atavisme divin. Et ce n'est pas un atavisme. C'est l'orientation fondamentale de mon âme vers Dieu. Je suis fait pour la béatitude. J'ai l'héritage du Père. Grâce à mon âme, grâce au baptême, grâce à ma vie chrétienne. C'est quelque chose de substantiel, ça. Et ça touche ma finalité. L'atavisme touche le conditionnement de mon corps. Bon, le conditionnement de mon corps, il n'y a pas que l'atavisme qui me touche. La première éducation, l'exemple. J'ai vécu dans un milieu tout à fait athée. Un petit enfant volé par une louve, vivant au milieu des louves, continue de marcher à quatre pattes. Il y a des témoignages, ça. Il se met à aboyer. Il n'y a pas d'éveil de l'intelligence, ou l'éveil de l'intelligence est beaucoup plus tardif. Je crois que l'éveil de l'intelligence se ferait, mais ordinairement, quand on retrouve un enfant volé par les loups, on l'enlève le plus vite possible de ce contexte. On n'a pas le droit de faire l'expérience. C'est-à-dire de le laisser au milieu des loups en disant « On va voir comment s'éveiller son intelligence. » Je n'ai pas le droit de faire ça. Parce que je suis responsable de tout être humain. Et donc un enfant emporté par des loups et que je le découvre, je dois le considérer comme mon enfant. Il n'a plus de parents. Donc je dois l'arracher. On ne sait pas exactement. On sait qu'au début, c'est forcé. L'éducation des premières années est très puissante. Tellement puissant que l'enfant, volé par des loups, marche à quatre pattes. Et ne cherche pas à s'évader. Parce que ça, c'est le premier conditionnement de marcher sur ses pieds. Pourquoi qu'on ne marche pas quatre cherche la raison pour avoir le cerveau libre. Donc, on peut dire que le milieu qui nous entoure, qui sert de modèle, c'est sûr, nous donne un conditionnement très fort. Les habitudes acquises donnent aussi un conditionnement très fort, donc analogue à l'atavisme. C'est le conditionnement interne de mon corps. Et mon corps est, je dis que pour mon corps, le conditionnement est fin. C'est vrai. C'est l'éveil de l'intelligence et de la volonté qui fait la différence entre le conditionnement et la fin. Ça, c'est l'éveil de l'intelligence. Vous ne le faites pas dans la mémoire, dans l'imagination. Vous ne le faites pas. Vous êtes conditionné par votre milieu et entièrement conditionné par votre milieu. L'éveil de la finalité, c'est le dépassement du conditionnement. C'est la victoire de la fin sur le conditionnement. Or, cela exige normalement l'exemple. L'exemple dans l'éducation joue un rôle capital. Ça, c'est vrai. Et quand on n'a pas d'autre exemple que celui de la famille, des parents, des frères et sœurs, et que tous sont comme ça, on a une peine énorme d'en sortir. Je crois qu'on ne pourra en sortir que lorsque, justement, l'intelligence arrivera à être suffisamment éveillée pour dépasser ce premier conditionnement. Je crois que l'intelligence humaine peut y arriver, mais ce sera héroïque. Parce que l'intelligence, par nature, est capable de dépassement de tout conditionnement, de découvrir la finalité. Mais le conditionnement humain est sûrement quelque chose de très, très puissant. Ça nous donnera une excuse énorme en face de Dieu, parce que Dieu le sait. L'être humain, parmi les vivants, est sûrement le plus conditionné de tous les êtres humains. Mais qu'à regarder, la petite brebis, quand elle naît, est à quatre pattes très vite. L'enfant est dans le berceau. Mettez un petit gosse sans berceau. Il est incapable de se tenir à quatre pattes. Son conditionnement est plus fort que tous les autres. On voit la naissance. Il naît dans une fragilité plus grande que tous les autres animaux. Et donc, son conditionnement, quand il est petit, est plus fort que pour tous les autres animaux. C'est très beau, du reste, parce que c'est là qu'on voit que Dieu a voulu que les parents jouent ce rôle très grand de la première éducation. Une responsabilité qui va très loin. Et quand l'enfant est au petit, au fond, il n'y a pas d'éveil de la finalité. L'éveil de la finalité se fait lentement. Et tant que l'éveil de la finalité ne s'est pas fait, le conditionnement est tout puissant. Alors, il est bien évident que pour l'homme, c'est le vivant qui est le plus conditionné de tous les vivants. Dans la sagesse de Dieu, on peut se demander pourquoi. Alors, le pourquoi sera nécessairement de dire que Dieu veut laisser aux parents une plus grande responsabilité. Tout ça va dans le sens où Dieu n'a pas créé l'âme tout de suite. Il semble bien, ça va toujours dans le même sens. C'est pour laisser aux parents la plus grande responsabilité. Laisser à l'atavisme une très grande place. Laisser à la première éducation une très grande place. Parce que le conditionnement est tellement puissant. Alors, ça montre le rôle capital du père et de la mère. Et montrer que ce rôle capital du père et de la mère ne peut pas être remplacé. Donc, Dieu l'a voulu. Et il y a un signe qui nous dépasse, qui est naturel, de montrer l'importance du père et de la mère. Dans les animaux, la famille n'existe pas beaucoup, sauf pour les lions, paraît-il. Les lions et la lionne, il y a des familles lions. Et chez les animaux, prenez les oiseaux, quand il quitte le nid, il s'en va. Il ne revient pas au nid. Pendant un certain temps, il revient, tant qu'il est encore trop faible. Mais très vite, il reconstruit un autre nid. Tandis que chez l'enfant, chez l'homme, plus exactement, chez l'homme, le point de vue de l'éducation joue un rôle capital. Donc on peut dire que le corps humain, par rapport aux autres vivants, est beaucoup plus ce que Platon, c'est pas vrai, mais c'est métaphorique, et sépulcre de l'âme. Platon disait que le corps était le sépulcre du corps de l'âme, que le corps était le sépulcre de l'âme. C'est vrai, l'âme est tellement enfouie dans le corps qu'elle met du temps avant d'émerger. Et ce que l'Église a reconnu quand elle a dit l'âge de raison à 7 ans, c'est vrai. À quel moment il y a émergence de l'âme par rapport au corps, sépulcre de l'âme, l'enfouissement du corps, dans l'enfouissement de l'âme dans le corps. Je crois que ça, il faut le sentir plus que de se souvenir. Je ne crois pas que vous avez beaucoup de souvenirs de votre naissance et du premier conditionnement dans lequel vous étiez, votre berceau, puis quand vous avez commencé à marcher. C'est inscrit dans le corps. Mais la mémoire du corps est assez limitée. Elle doit toujours être complétée par quelqu'un qui dit que c'est la mémoire du corps. C'est peut-être une disposition, mais pas mémoire. Une disposition, c'est vrai ça. Le corps a encaissé tous les coups durs. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il les a encaissés en les mémorisant? Je ne crois pas. C'est celui qui regarde et qui refait une construction de la vie de l'homme qui essaie de compléter ses dispositions, de donner une signification à ses dispositions. Il peut le faire en raison de quelque chose de beaucoup plus déterminé. Vous voyez, c'est une espèce de projection. C'est sans doute ça. Je ne crois pas qu'il peut aller beaucoup plus que le sans doute. C'est très mystérieux, la mémoire du corps. Ce qu'on appelle aujourd'hui la mémoire du corps. Et on dit mémoire parce que c'est un souvenir. Mais alors, le souvenir nous rappelle ce que nous avons fait, ce que nous avons enduré, et la signification de ce que nous avons fait, c'est ça la mémoire. Mais quand il n'y a que le souvenir matériel, alors on peut dire souvenir du corps, vous voyez, en insistant, le souvenir de la matière, on a encaissé. Alors c'est sûr, quand on est tout jeune, quand on est dans le sein maternel, on encaisse beaucoup plus. Donc c'est normal qu'il y ait quelque chose qui demeure. Et en reprenant ça, on donne une signification à tous les coups. Mais cette signification, elle provient de votre, ce que vous êtes maintenant. Elle ne pouvait pas être déterminée au moment où vous l'avez reçue. Et ce que je veux dire, c'est que la signification de ce choc qui est matériellement dans le corps, le bleu, quand un corps subit un coup fort, les vaisseaux du sang s'éclatent, on a un bleu. Le bleu est-il mémoire d'un être sanguin? Sûrement, c'est une mémoire, mais c'est une mémoire qui garde le souvenir matériel. La signification de ce souvenir s'est faite ensuite. Elle s'est déterminée de cette façon. C'est pour ça que, pour certains, le même choc donnera des fruits différents. À raison même que c'était un choc qui ne touchait que l'aspect matériel et qui a arrêté un développement. Et ce développement pouvait se faire très bien dans deux sens différents. Alors c'est pour ça qu'on dit mémoire du corps. La mémoire du corps, c'est justement une mémoire indéterminée, mais qui a existé et progressivement, nous-mêmes, en tant que vivants, nous avons donné un sens à cela. Encore une question. Si avec la vieillesse, l'âme informe toujours plus le corps, l'âme est plus finalisée, qu'en est-il dans l'expérience de la maladie? Bon. Si la vieillesse, l'âme informe toujours, attention, l'âme informe toujours plus le corps. La vieillesse, c'est justement un corps qui est moins informé par l'âme. le corps reprend plus de place dans la vieillesse que quand on est parfaitement maître de son corps. Agilité. Pourquoi la vieillesse ralentit tous les mouvements? Parce que le corps est moins informé. Donc faisons attention à ça. La vieillesse est justement le signe d'une âme qui informe moins le corps. Parce que l'âme, elle ne connaît pas la vieillesse, l'âme. Mais une âme chez un vieillard informe moins son corps que l'âme chez un jeune homme. Le corps vieillit, c'est le corps qui vieillit. Le corps en vieillissant s'appesantit et devient moins subtil, devient plus raide. Il est plus déterminé par le conditionnement. Vous ne pouvez pas éduquer de la même façon un vieillard et un gosse. Le gosse, on peut l'éduquer en faisant que son âme puisse s'éveiller et dominer son corps, tandis que le vieillard, son âme informe moins son corps. Et la mort, c'est quand justement que l'âme ne peut plus informer le corps. Autrement, il n'y aurait pas la mort. La mort, c'est la victoire du corps. Une triste victoire qui se fait dans une défaite, mais c'est quand même une victoire, puisque l'âme s'échappe. Et l'expression même de dire que l'âme s'échappe, ça montre bien que le corps n'a plus eu assez de force pour maintenir l'âme. Alors l'âme s'échappe. Le vieillard se mettra beaucoup plus facilement dans le silence intérieur que le jeune homme, quand il est en pleine vie, il s'endort beaucoup plus facilement, parce que de fait, le corps demande le silence, s'endormir. Et donc, si avec la vieillesse, l'âme informe toujours plus le corps, ce n'est pas juste. Avec la vieillesse, le propre de la vieillesse, c'est la victoire du corps sur l'âme. L'âme est plus finalisée, oui, l'âme est de plus en plus finalisée, mais en étant de plus en plus finalisée, elle quitte le corps. La fin de l'âme, ce n'est pas d'être dans le corps. Ceci en raison du péché, hein. Je peux le dire au point de vue théologique, au point de vue philosophique, je ne peux pas le dire, je constate. Constate qu'avec la vieillesse, l'âme informe moins le corps. L'âme devrait être de plus en plus finalisée. Devrait être de plus en plus finalisée. C'est pas toujours vrai. Qu'en est-il dans l'expérience de la maladie? La maladie se comprend par la mort. La maladie n'a de sens qu'avec la mort. Toute maladie, n'importe laquelle, la maladie touche notre corps et fait que notre corps devient plus pesant, donc moins informé. C'est sûr. Quand on est malade, le corps prend plus de place. Forcément. Donc le conditionnement devient de plus en plus important. Et on doit tenir compte de ça. Un corps malade est forcément plus corps que l'âme, nécessairement plus corps que chez quelqu'un de bien portant. Il y a une légèreté chez celui qui est bien portant, parce que l'âme assume pleinement son corps. La vie vient de l'âme. Elle ne vient pas du corps. Le corps, c'est la pesanteur. Dis-nous vers le bas. C'est très curieux, ça. Et alors, il y aurait, si on voulait, hein, faire la philosophie du vieillard, ce serait très intéressant. Parce qu'on verrait que déjà chez le vieillard, c'est très différent chez celui qui, durant toute sa vie, a essayé de maintenir sa finalité. Alors sa finalité prend une place de plus en plus importante, ça c'est sûr. Donc à ce point de vue-là, l'âme est de plus en plus vivante et de plus en plus intérieure. Mais le phénomène de la vieillesse est donc d'autant plus sensible parce qu'il est vécu. Tandis que chez le vieillard qui n'a pas cherché beaucoup la finalité, prenez le noceur qui pendant toute sa vie a bien mangé, a bien bu. Prenez sa vieillesse. C'est très curieux. C'est plus juste la même chose. Parce que déjà, en tant que celui qui mettait sa finalité à bien manger et à bien boire, sa finalité de bien manger et de bien boire risque de tout prendre avec la vieillesse. Alors on aura des vieillards chagrins. Toujours de mauvaise humeur, parce que ils ne seront jamais satisfaits. Ils voudraient manger plus, ils ne peuvent pas, leur estomac l'en partie. Alors ça fait forcément une mauvaise humeur. Ça ne va pas sûrement. Alors le vieillard sera toujours chagrin, à ce point de vue-là. Mais c'est pas signe de la vieillesse, c'est signe de telle vieillesse. La vieillesse varie selon les individus, selon les personnes. Elle n'est pas toujours la même. Dans la vieillesse, les choses se manifestent plus. Ça, c'est sûr. On est moins victorieux des obstacles, parce qu'on ne peut pas les dominer entièrement. On est dominé par les obstacles, beaucoup facilement. Alors, à ce point de vue-là, les colères se manifestent plus. Mais ils manifestent l'âme dans sa finalité. Il y aurait toute une étude très curieuse à faire sur la vieillesse. Comment l'âme animale-t-elle le corps? Où se situe cet aspect de la lutte contre le mal physique? Comment l'âme amine le corps? Parce qu'elle est substance de l'âme, du corps. C'est une union substantielle. Donc c'est au niveau de l'être et de la vie. L'âme est principe de vie et principe d'être. Mon corps vit et mon corps existe grâce à mon âme. Mon existence vient de mon âme. Ma vie vient de mon âme. Donc l'âme est source. Donc en tant qu'elle est source, elle doit toujours dominer le corps. Et elle domine le corps par le point de vue de la pensée et par le point de vue de l'amour. Mais comme en vieillissant, le corps prend de plus en plus de place dans son conditionnement. Le corps est de plus en plus envahissant par son conditionnement. Alors, par son conditionnement, le corps s'affirme plus chez le vieillard que chez le jeune. C'est pour ça que l'Église est très miséricordieuse pour le vieillard, puisqu'il n'y a plus l'obligation du jeûne. C'est à cause de ça. Parce que l'Église sait que chez le vieillard, le corps est plus exigeant, plus impérativement exigeant que quand on est en pleine force, en pleine jeunesse. C'est très curieux. Il est à la fois plus exigeant, donc il s'impose davantage. C'est très net, il s'impose davantage. Et en même temps, l'âme est de plus en plus finalisée. Donc la distinction entre le conditionnement et la finalité est d'autant plus forte si ce vieillard est finalisé. Mais vous avez, hélas, constamment des vieillards dans lesquels le conditionnement a tout pris. Et ils ne sont incapables de vivre de leur finalité. Ils ne pensent plus, ils n'aiment plus, et ils ne pensent qu'à manger et à dormir. Oui, l'animal, le conditionnement animal a tout pris. Et la finalité s'est éteinte. Ça existe dans, hélas, les hospices. Et c'est ça qui est terrible, c'est que le conditionnement ne favorise pas du tout un éveil chez eux. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que pour les vieillards, il faut amener les enfants pour qu'ils s'éveillent devant les petits. Devant les grandes personnes, ils se tairont. Mais devant les petits enfants. Parce que vis-à-vis de l'enfant, aussi le conditionnement et tout. Donc ils sont au même niveau. Il y en a quelque chose de très curieux et qui est très important à voir. Normalement, un vieillard devrait comprendre beaucoup mieux qu'un jeune homme la différence du conditionnement et de la finalité. Ça devrait s'imposer d'une façon très nette. Hélas, beaucoup de vieillards vieillissent en perdant complètement le sens de la finalité. Mais ça, c'est parce qu'ils récoltent les fruits de toute leur vie. Ils n'ont pas cherché à dominer le conditionnement. Ils ne sont pas vertueux. La vertu ou le vice éclate chez le vieillard, alors que l'homme adulte, en pleine santé, il cache ses vices. On ne les voit pas. Chez le vieillard, ça se voit. C'est très curieux, les rapports de l'âme et du corps chez le jeune et le rapport est du corps chez le vieillard. Il y aurait toute une étude dans la philosophie à faire qui serait très importante. Parce qu'ordinairement, elle se fait uniquement au niveau psychologique. Alors, au niveau psychologique, donc, ça se fait selon les manifestations. Mais alors, elle est extrêmement variée. Je crois que le problème de l'individuation et de la personne est beaucoup plus criant chez le vieillard que chez l'homme en pleine force. Quand l'homme est en pleine force, la personne domine complètement l'individu. Tandis que chez le vieillard, l'individu reprend ses droits. Et si la personne n'est pas très forte, l'individu crie. et on entend que l'individu crie. Et la personne laisse l'individu crier. Au fond, c'est ça qu'il faudrait voir. Les rapports de la personne et l'individu chez le tout petit enfant, chez le vieillard. Et puis, entre deux, l'homme qui se mûrit, l'homme qui arrive progressivement par sa personne et dans sa personne à être victorieux de l'atavisme. Oui, chez un religieux, il y a cette chose très curieuse, c'est que si il n'est pas tendu vers sa finalité, à 50 ans, 60 ans, il redevient l'enfant de ses parents. L'atavisme rejaillit avec beaucoup de force. Si il a cherché toujours la finalité, et fidèle à cette recherche de la finalité est victorieuse, ça. Mais autrement, l'atavisme, c'est l'individu. L'individu domine sur la personne. À partir de 50, 60 ans, ça dépend.